Parler à ce sujet. Et en parlant de la Pentecôte, je voulais faire un petit rappel des trois fêtes principales en Israël qui sont célébrées chaque année avec ferveur, notamment à l'époque où le peuple habitait dans son territoire. Je voudrais m'arrêter ce matin sur ces trois fêtes parce qu'elles ont une valeur symbolique pour nous aujourd'hui. Vous savez que la parole de Dieu, elle nous annonce des choses qui se réalisent aujourd'hui. Donc la première de ces fêtes, c'est la fête des pains sans levain. Et nous lisons ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Je vous lis les versets 4 à 6, où il nous est dit, voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois du 14e jour, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. La fête de Pâque. Vous savez ce que c'est que la fête de Pâque, n'est-ce pas? Quand on regarde dans l'histoire d'Israël, pour le peuple d'Israël qui était captif en Égypte, c'est précisément la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la libération de l'esclavage. Un événement fondateur pour le peuple d'Israël, puisque de là, il est allé jusqu'au pays de Canaan. Pour nous, les chrétiens, Pâques, c'est aussi une libération, la libération de l'esclavage du péché. Comme l'agneau pascal, sans défaut, sans tache, a été offert pour nos péchés. Et l'apôtre Paul reprend cette pensée dans 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et de même que la sortie d'Égypte, la Pâque qui a été célébrée à ce moment-là par le peuple d'Israël était fondateur pour Israël, pour nous, c'est fondateur en tant qu'Église, la Pâque que nous célébrons, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors bien sûr, ici, on n'a pas de difficulté à faire le parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, n'est-ce pas, pour vous, je pense que c'est clair. Et on n'a pas non plus de mal à apprécier toute la portée de cette fête. Alors après Pâques, il y a l'Ascension. On a parlé jeudi. L'Ascension, c'est le moment où Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Et c'est un événement absolument exceptionnel, puisque personne n'était ressuscité comme Jésus avant lui. Un événement exceptionnel qui n'a pas d'équivalent dans la loi juive, mais qui est essentiel pour nous chrétiens. Donc la première solennité, la première fête, la fête de Pâques. La deuxième, c'est une fête qui devait être aussi célébrée de manière régulière par tous les hommes, en bonne santé, sans défaut. Il ne fallait pas qu'ils soient infirmes ou quoi que ce soit, pour se présenter devant l'Éternel. C'est la fête des semaines. Et nous lisons toujours dans le livre de l'Exode au chapitre 23, à partir du verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Retenez ça, 7 semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, cette deuxième solennité, cette deuxième fête, fête des semaines. Vous avez entendu? Fête des semaines parce qu'elle se situe 7 semaines après Pâques. Et on l'appelle aussi fête de Pentecôte parce que 50 jours après Pâques, 7 semaines, ça fait 50 jours, le 50e jour. Et 50 en grec, c'est Pentecôte. Alors cette fête, on l'appelait aussi fête de la moisson ou fête des prémices. Des prémices parce qu'on offrait à l'Éternel les premiers fruits qui étaient arrivés à maturité comme étant justement les prémices de ce que la récolte allait être plus tard dans l'année, à la fin de l'année, à l'automne. Et si ces prémices étaient abondantes, cela signifiait que la récolte à la fin de l'été serait elle-même abondante. Et il y a la troisième solennité, c'est la fête des tabernacles. Nous lisons toujours dans ce même chapitre, au verset 39 à 43, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes d'Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai habité sous des tentes, que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, dit l'Éternel. Alors cette fête, donc, s'appelle la fête des tabernacles, mais aussi la fête des cabanes, Soukhot. Parce que justement, comme on l'a lu, elle rappelle la période où le peuple était nomade dans le désert. Vous savez que cette période a duré 40 ans. Donc pendant 40 ans, ils ont vécu sous des tentes, et chaque année, à la fête des tabernacles, on passe 7 jours sous des tentes pour se souvenir de ce qui a été vécu autrefois. Et à cette époque-là, cette fête aussi marquait la fin de la récolte. On avait tout moissonné, on avait rentré toutes les réserves dans les greniers et on se livrait à la fête, on se livrait aux réjouissances. On offrait à l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce pour sa bénédiction qui se manifestaient à travers l'abondance de la récolte. Les greniers étaient pleins, débordaient, et on savait qu'on pourrait passer l'hiver tranquille. Vous savez, nous aujourd'hui, on achète des fruits en toute saison, mais à l'époque, il fallait faire des réserves pour pouvoir passer l'hiver. Alors voyez-vous, entre ces deux fêtes, la fête des prémices, Pentecôte, et la fête de la moisson, la fête des tabernacles, tous les produits de la terre, que sont les céréales, les fruits, tout ce qui a été cultivé, continuent à grandir. Tous ces fruits grossissent, se développent pour arriver à maturité. Et tout cela se fait tout seul, sans aucune activité humaine. Parce qu'une fois qu'on a planté, on n'a plus rien à faire humainement. On laisse pousser, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous avez des jardins. À Paris, c'est un peu difficile. Mais quand on a des jardins, on plante et après, on laisse pousser. On ne va pas voir. Vous savez, les enfants, des fois, quand on leur dit qu'on a planté, ils veulent voir le lendemain si ça a poussé. Évidemment, ça prend un peu de temps pour pousser, hein. Donc, on ne fait plus rien sur le plan humain. Mais il y a une activité souterraine qui est importante. C'est le travail du sol, les engrais. Et ce travail s'accomplit tout seul. Pourquoi ? Parce que, préalablement, il y a eu une activité humaine importante. Il y a eu le travail du cultivateur, qui a retourné le sol, qui a labouré, qui a ensemencé. Alors, à quoi correspond tout ce travail préparatoire, fondamental et indispensable ? Eh bien, nous trouvons la réponse dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, où il nous dit « À cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » De qui est-il question là ? De Jésus lui-même. Alors, pour faire un petit résumé, pendant le ministère terrestre de Jésus, qui commence à sa naissance et qui va jusqu'à Pâques, puisque là, il est mis à mort, il est ressuscité et il monte au ciel, pendant toute cette période, en réalité, Jésus a ensemencé le sol de l'humanité avec sa vie, avec son sang, avec sa chair. C'est la fête de Pâques. Ensuite, il y a eu Pentecôte, les prémices. L'Église, l'Église primitive, la première Église, les premiers disciples de Jésus ont été oints du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé ce jour-là? Il y a eu 3000 convertis, vous vous souvenez, le premier jour. Le deuxième jour, il y en a eu 5000. Mais ça n'était que les prémices. Et puis, la troisième fête, c'est la fête de la récolte, la fête de la moisson. La fête qui se situe à la fin de l'été, à l'automne, au moment où justement on a engrangé tous les fruits de la terre dans les greniers. À quoi ça correspond ça? Ça correspond au travail de l'Église. Avec la Pentecôte, le ministère de l'Église a commencé. Et il y a eu ces conversions. Mais ce n'était que les prémices. Ensuite, on est maintenant dans cette période entre Pentecôte et la fête de la moisson. La fête de la moisson, nous dit l'évangile de Matthieu, la moisson, c'est la fin du monde. Matthieu 13. Donc, si vous voulez, l'Église se situe là dans cette période, dans cet intertemps, où elle doit continuer à faire le travail que le Saint-Esprit a commencé à faire à la Pentecôte. Vous saisissez ce que je veux dire? Donc, on est dans cette période où l'Église doit travailler. Elle n'a plus à ensemencer parce que Jésus l'a fait par sa mort et par sa résurrection. Mais elle doit travailler à l'annonce de l'Évangile, pour que les hommes et les femmes se tournent vers le Seigneur et que nous nous préparions, nous, le peuple de Dieu, au retour du Seigneur, où là, ce sera une fête perpétuelle. À la fête des tabernacles, le peuple d'Israël se réjouissait de l'abondance des biens qu'ils avaient récoltés, et nous, à la fin du monde, la grande fête des tabernacles, alors là, on se réjouira avec l'Éternel de tout ce qui a été ensemencé, de tous les hommes et les femmes qui auront rencontré Jésus-Christ et qui seront dans la gloire avec lui. Et ce sera une fête perpétuelle, où ça? Dans le royaume de Dieu. Alors vous voyez, ces trois fêtes ont leur importance. Parce que, à ce moment-là, le peuple que nous sommes sera en sécurité. On ne se souviendra plus de l'époque où on était voyageurs et étrangers sur la terre. Parce que vous savez que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre aujourd'hui. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et quand la moisson sera venue, se passera ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Et il est dit en Joël 2, 24-25, « Les granges se rempliront de blé, les cuves se regorgeront de moût et d'huile. » Et à quoi ça correspond pour nous aujourd'hui, cela? Eh bien, justement, ça correspond à la multitude de ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Non plus les 3000 de la Pentecôte du premier jour, ni même les 5000 du deuxième jour, mais des milliards d'êtres humains qui auront répondu à l'appel de l'Évangile à travers les siècles et qui auront répondu au moment de la grande poisson, et ceci par le ministère de l'Église. Et le prophète Joël continue en disant « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazan. Ces années où la récolte n'était pas prête, où l'Église n'était pas prête, parce que l'Église n'a pas toujours accompli sa mission. Donc, je le répète, nous sommes dans cette période, dans cet intertemps entre la fête de Pentecôte, la première Pentecôte, et la fête de la moisson, où Dieu veut que son Église se prépare activement pour cette grande moisson finale, qui marquera le retour de Jésus lorsque l'épouse, c'est-à-dire l'Église, se sera préparée pour les noces de l'agneau. Et de quelle façon se préparer? Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 37, « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez pour que l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplisse en nous. Priez pour une nouvelle effusion de l'Esprit. Non pas l'effusion de la Pentecôte, mais une effusion plus grande, plus forte, plus puissante. Que Dieu veut donner, parce que Dieu veut donner beaucoup plus à son Église. Il veut pas se contenter des prémices. Il veut donner beaucoup plus à son Église. Parce que l'Église a une mission qui n'est pas réservée au peuple d'Israël, comme les premiers disciples le croyaient au moment où ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais Jésus a donné une mission à l'Église pour qu'elle touche le monde entier. Donc il faut une onction de l'Esprit à la mesure du travail que nous avons à accomplir. Dieu veut, ma conviction profonde, c'est que Dieu veut envoyer un grand réveil avant le retour de Jésus. Et ce n'est pas ma conviction propre, il y a des serviteurs de Dieu beaucoup plus éminents que moi, contrairement à ce que disait Patrick tout à l'heure, qui le disent également. Et je ne m'appuie pas sur ce qu'ils disent, je m'appuie parce que le Seigneur me l'a dit à moi aussi. Et ce que disent ces serviteurs éminents confirme ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Un grand réveil pour que, avant la fin des temps, frères et sœurs, les foules se convertissent. Vous avez certainement tous dans vos familles des personnes qui ne sont pas converties. Moi, j'en ai dans la mienne. Et tous les jours, nous prions pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et nous prions avec espérance parce que nous savons qu'avant son retour, Jésus enverra un grand réveil et tous ces gens qui paraissent réfractaires à l'Évangile maintenant seront confondus et se convertiront. Le croyez-vous ? Amen. Donc, le cultivateur, je le disais, entre ces deux fêtes, entre la fête des prémices et la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles, a fini son travail dans les champs. Il laisse pousser ce qu'il a planté, mais il travaille dans sa ferme. Il travaille à nettoyer ses greniers pour engranger la récolte. Il prépare son outillage. Il soigne ses bêtes. Ça, c'est la structure. Ça n'est pas la chose la plus importante, mais c'est aussi nécessaire et même indispensable. Et à quoi correspond cette structure ? Eh bien, elle correspond à la vie de l'Église. La vie de l'Église ne doit pas être une vie où les chrétiens se querellent, où les chrétiens sont en conflit les uns avec les autres, où on fait des clans. On a vu ça dans l'Église. Mais c'est la période où les chrétiens doivent se rassembler, avoir la même pensée, avoir un seul cœur, et balayer tout ce qui est du passé, purifier nos cœurs. C'est ça la purification, le nettoyage des greniers. Et on redécouvre, en ce moment, on en entend partout parler, la valeur des cinq ministères dont nous avons parlé aussi jeudi, les cinq ministères d'Éphésiens 4, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, ces ministères qui ont été négligés pendant des décennies, voire des siècles. On redécouvre aussi l'importance et la valeur du travail en équipe, où chacun est impliqué et chacun est responsable. Parce que, frères et sœurs, nous sommes tous porteurs d'une part de Christ. C'est ce qu'on appelle en termes bibliques le sacerdoce universel. Et l'apôtre Paul nous en parle dans Éphésiens 1, 23. L'Église est le corps de Christ. C'est en elle que Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est dit dans ce verset ? Lui, Jésus, qui remplit tout l'univers. Vous savez quelles sont les limites de l'univers ? Il n'y en a pas. Il est toujours en expansion. Et Jésus remplit tout ça. Et lorsque nous sommes réunis en Église, comme ce matin, eh bien, Christ est pleinement présent au milieu de nous. Mais il ne faut pas qu'on ait de division. Christ est pleinement présent parce que je ne peux pas, à moi seul, porter cette plénitude de Christ. Mais chacun de nous sommes porteurs de cette dimension de Christ, d'une part de cette dimension de Christ. Et quand nous mettons tout ça ensemble, eh bien, Christ est pleinement présent au milieu de nous. Alléluia. Et comme le cultivateur nettoie ses greniers, nous devons nettoyer nos cœurs, nous sanctifier. Laisser Dieu balayer les découragements, balayer la négligence. Et là, il y a un travail important de collaboration avec le Saint-Esprit. Un travail de sanctification, de consécration, un travail d'évangélisation, un travail de préparation du réveil. Et alors, frères et sœurs, il se produira une chose absolument étonnante que nous trouvons dans l'Apocalypse, au verset 14, au chapitre 14. Au verset 14, c'est intitulé dans ma Bible « La moisson et la vendange ». Je regardais, c'est l'apôtre Jean qui parle, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. » La fête des tabernacles, la fête de la moisson. Car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Écoutez bien ceci, verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. En un instant, la terre fut moissonnée. Et je vais vous dire, frères et sœurs, cela peut se produire à l'instant ici, maintenant. Ça peut se produire cet après-midi, ça peut se produire à n'importe quel moment de la journée. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça, c'est le retour du Seigneur dont il est parlé là. Parce que comme il est dit dans Matthieu 24, au verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » En un clin d'œil. Le Seigneur reviendra. L'Église sera enlevée et ça sera terminé. Il y a un théologien bien connu qui s'appelle C.S. Lewis qui disait « Si nous croyons au retour de Christ, nous devons vivre chaque moment de notre vie comme s'il était le dernier. » Est-ce que c'est comme ça que vous vivez, frères et sœurs? Alors je vous le dis, frères et sœurs, les temps sont courts, très courts. Regardez ce qui se passe. Ou ce qui s'est passé. Au temps de Noé, la violence était à son comble. Vous vous souvenez? Dieu est intervenu pour détruire l'humanité. Au temps de Sodome et Gomorre, le péché était à son comble. Dieu est intervenu pour détruire ces deux villes. N'avez-vous pas l'impression que la violence est à son comble dans les temps que nous vivons? La menace du feu nucléaire, dont on entend parler quasiment tous les jours en ce moment à la radio ou à la télévision, les guerres qui frappent des innocents à Gaza, en Israël, en Ukraine, en Russie, en Nouvelle-Calédonie ces jours-ci. N'avez-vous pas l'impression que le péché est à son comble avec les législations sur l'homosexualité, les LGBT et autres choses de ce genre? Comme le disait un autre philosophe chrétien, Jacques Ellul, c'est la démocratisation du péché. J'aime bien cette expression, démocratisation du péché. C'est-à-dire que, voilà, ça se répand et tout le monde, j'allais dire, en profite. Vous savez, à Babylone aussi, l'homosexualité était légalisée. Et qu'est-ce qui reste de Babylone? Plus rien. Absolument plus rien. Et qu'est-ce que nous dit encore l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37 ? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous ne devons pas nous effrayer ni rester tétanisés ou passifs Au contraire, frères et sœurs, nous avons une grande mission à accomplir pour préparer le retour du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, ce texte que Adnan nous a lu ce matin, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1:8. Mais cette parole, aujourd'hui, on peut la redire, mais elle n'est plus au futur. On ne peut plus dire « Vous recevrez une puissance » parce que cette puissance a été envoyée. Jésus, Dieu l'a envoyée. Et on peut le dire aussi au présent, vous avez reçu une puissance qui est survenue sur vous et au présent, et vous êtes mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut plus dire vous serez mes témoins, parce que maintenant nous devons être les témoins. Vous êtes les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, frères et sœurs, n'attendons pas de revivre la première Pentecôte, de revivre les prémices. C'était juste un avant-goût de ce que Dieu veut faire. Mais soyons prêts pour la grande moisson qui est la fin des temps, comme il est dit dans Matthieu 13. Et je voudrais terminer avec cette parole, cette promesse du prophète Ésaïe au chapitre 60, versets 1 à 5, qui est repris dans Apocalypse 21 au verset 24. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ça s'adresse à nous, ça s'adresse à l'Église. « Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, Église de Jésus-Christ. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Voilà les promesses que Dieu fait pour l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit devenir maintenant celle qui impulse, celle qui influence le monde pour que les nations marchent à sa lumière et les rois à la clarté de ses rayons, des rayons de Jésus-Christ. Et puis il y a cette promesse de Jésus, « Oui, je viens bientôt. » Apocalypse 22-21. Et la réponse de l'Église, « Viens, Seigneur Jésus. » Amen. Alors, on est tous très heureux de penser que le Seigneur va revenir, n'est-ce pas? Bon, moi, évidemment, à mon âge, je peux attendre sereinement le retour du Seigneur. Je n'ai plus grand-chose à espérer de la vie. Les jeunes, évidemment, ils se disent, bon, moi, j'aimerais bien quand même vivre encore un peu, profiter de la vie, me marier, etc. Mais, voilà, le Seigneur nous dit qu'il vient bientôt. Alors, est-ce que c'est ça notre prière? Viens, Seigneur Jésus. Alors, je voudrais ce matin, frères et sœurs, que nous laissions le Saint-Esprit nous animer d'un zèle nouveau. Laissons le Seigneur déverser sur chacun de nous une onction fraîche de son esprit pour que nous soyons impliqués et disponibles pour cette grande moisson que le Seigneur veut accomplir dans ces temps de la fin. Amen. Alors je voudrais vous inviter à vous lever si vous voulez recevoir, être animé à nouveau du Saint-Esprit, permettre au Seigneur d'agir dans votre vie et de vous rendre utile à son royaume. Comme disait Patrick, nous avons à travailler pour le Seigneur, mais lorsque nous avons fait ce que nous avons à faire, l'Évangile nous dit nous sommes encore des serviteurs inutiles. Parce que Dieu pourrait agir sans nous. Il n'a pas besoin de nous pour sauver l'humanité, mais il a décidé de passer par l'Église, c'est-à-dire de passer par chacun de nous. Et nous avons la responsabilité d'être disponibles pour accomplir cette mission. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce que nous sommes ton peuple, tes enfants, ceux que tu as rachetés par ton sang. Tu as ensemencé par ton sang l'humanité de la semence de l'Évangile. Et nous nous avons à porter ce message pour que les hommes et les femmes se tournent vers toi et qu'ils reçoivent cette vie nouvelle que tu veux donner à tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons tous renouvelés par ton esprit ce matin. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Souffle sur nous un souffle nouveau. Donne-nous un zèle nouveau, Seigneur, pour accomplir ta volonté, pour accomplir ton plan et pour que tu puisses venir nous chercher et vivre avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux de nos proches qui ne te connaissent pas, pour que notre témoignage puisse toucher leur cœur et qu'ils se tournent vers toi. Nous te prions pour que l'onction de ton esprit sur nos vies déborde sur ceux qui nous entourent, sur ceux que nous côtoyons, et qu'ils soient touchés, interpellés par cette vie de l'esprit qui est en nous et qui les attire à toi. Seigneur Jésus, accomplis ton œuvre dans chacune de nos vies ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci au pasteur Joël. Voilà, j'ai retenu une chose.